Québec a confirmé le remplacement du toit du stade olympique. Pierre-Yves, ça coûterait entre 200 et 250 millions.
Oui, et les gens disent, pourquoi pas le démolir puis en faire un autre? Ben parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, quand on a décidé de le garder, on peut pas dire, on mettra pas l'argent dans le toit. On a comme une obligation. Hein. Dès qu'on fait une immobilisation dans le Québec, faut toujours penser qu'on met dans les mains des prochaines générations l'entretien de ces immobilisations-là. Donc, on a une toile à mettre ou une démolition à faire. On a choisi de le garder, donc faut changer la toile. On avait plus de 8000 fissures. La question, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va être amovible? On nous dit que oui. Donc, dans le fond, ça serait une décision du type, on voulait que ça puisse se retirer, mais la question, c'est pour combien d'événements? Tu sais, s'ils nous disent, on a besoin qu'elle soit amovible parce que quelquefois dans son histoire, on va pouvoir l'enlever. Ben, il faudrait se poser la question, est-ce que c'est logique de vouloir ces événements-là?
Alors, j'ai peut-être un élément de réponse, mais bien modestement.
Coupe du monde?
Coupe du monde. Madame la mairesse désignée, parce qu'elle n'est pas encore assermentée, on l'a eu en entrevue il y a une demi-heure, nous a dit, oui, la Coupe du monde, si jamais le Canada obtient la Coupe du monde, on aimerait bien.
Le Canada quoi? Hein? Tu sais, pour la Coupe du monde, le Canada, c'est quand même un petit pays.
Et c'est loin, ça serait la Coupe du monde, je crois, de 2026. L'autre affaire, c'est que j'ai été surpris de l'entendre dire que ça pourrait servir à des Jeux du Commonwealth. Ben, est-ce que Montréal serait intéressé encore à présenter des grands événements?
Ou le retour du pape, comme en 84, avec Céline dans le stade.
Alors, si jamais là, on demandait les Jeux du Commonwealth, et pour la piste d'athlétisme, il faudrait d'abord la rebâtir, et l'athlétisme doit se tenir en plein air. Donc, il faudrait qu'il enlève ce toit amovible.
Et il dit que ça pourrait prendre plusieurs jours, donc ce serait même pas chose un toit pour la Coupe rétractable. C'est pas comme au Sky Dome, ça prendrait plusieurs jours.
Exact. Mais bon, Jérémy Philosophe nous en a parlé depuis des semaines. C'est pas rétractable, c'est amovible, c'est pas pareil.
Mais faut voir ça comme une obligation de coût différentiel, c'est-à-dire faut remplacer le toit. On n'a pas le choix, soit qu'on scrape le stade ou qu'on remplace le toit. C'est un des deux. Donc,
est-ce que tu sais combien ça coûte scraper le stade?
Ben, on parlait d'évaluation à 500 et 600 millions à l'époque. Là, je peux pas te dire exactement. Je suis pas un ingénieur, mais on disait que si on dynamitait le stade, il y aurait un problème parce que avec l'armature, ça pourrait faire un effet slingshot et envoyer de la roche et du béton un peu partout.
Un peu partout. Exact. Voilà. T'as parfaitement raison. Et non seulement ça, c'est qu'il faut que tu décontamines après. Bref, les coûts là pour de démolition faudrait le milliard.
Il faudrait stocker ce béton-là quelque part.
Ah, ben, il pourrait s'en servir peut-être en petite grenaille puis mettre ça dans la rue au lieu du sel l'hiver. Je sais pas. On va parler de bière. C'est l'heure.
Oui.
C'est l'heure de s'en offrir une froide. Molson Coors, qui a diversifié son offre et qui a mis la main sur le microbrasseur Trou du Diable à Shawinigan.
Oui, et c'est pas illogique. Les gens se disent, comment ça se fait qu'on achète des petits microbrasseurs? C'est parce qu'ils sont distribués partout à travers le Canada, mais surtout, comment ça fonctionne dans les débits de boissons? Les compagnies de bière comme Labatt et Molson paient les pompes de bière à condition de mettre leurs produits. Donc, les bars se disent « Hey, c'est plate d'avoir juste les produits Molson, mes produits de microbrasserie, tu m'en donnes pas. » Donc, Molson va faire l'acquisition de produits de microbrasserie. Et là, quand ils vont vendre les pompes dans des bars où il y a 10, 12, 15 pompes avec l'exclusivité, vont pouvoir offrir des bières de microbrasserie et ainsi avoir plus de débits de boissons, sensibiliser les clients aux habitudes d'acheter des produits Molson et par conséquent, ces mêmes clients-là vont aller dans les épiceries acheter ces mêmes produits-là. Donc, c'est une convergence, une façon d'avoir Molson de A à Z, de ton dépanneur à ton épicerie, à ton bar, à tes habitudes de consommation. Et c'est pour aider à aller chercher le marché parce que là, il y a une consolidation de marché parce que la bière industrielle perd un peu de son lustre avec toutes les microbrasseries et l'avantage de la microbrasserie. Même si elle est possédée par Molson, c'est écrit sur la bouteille, mais physiquement, tu le vois pas. Et là, tu es prêt à payer ta bière 3, 4, 5 $ l'unité. Et il y a une plus grande marge par bouteille. Donc, Molson va comme ça augmenter sa marge sur certains produits et aller chercher un nouveau marché. Et quand on regarde la bière à travers le monde, tu sais, il y a le groupe Anheuser-Busch InBev qui est vraiment le plus gros avec 40,6 milliards de revenus par année. Et le deuxième, c'est Heineken avec 23. Donc, tu vois que le premier est vraiment distancé des autres. Et pour arriver à Molson, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e. Tu sais, t'es loin derrière avec 4,9 milliards de dollars américains de revenus. Donc, pour aller chercher des marchés et concentrer les marchés où on est déjà présent, on va chercher les petits joueurs et on offre. Et tu vas voir que ça va s'en venir de plus en plus.
Ouais.
Il y a eu Labatt et Archibald cette année aussi. Ouais. Donc, tu vois, il y a eu ces regroupements-là qui vont être de plus en plus fréquents.
Et les créateurs là, de ces microbrasseries font la passe dans ce temps-là?
Je sais pas, te souviens-tu de Robert Charlebois qui avait parti Unibrew? C'est un des premiers qu'on vendait une bière de microbrasserie et il a dit, Il a vendu à John Sleeman. Ouais. Et une fois que John Sleeman a fait l'acquisition, il s'est retourné de bord et a vendu à Sapporo. Donc, tu vois qu'il y a cette convergence-là. Même les brasseurs de Montréal, qui étaient un brasseur entre les deux, entre une micro-microbrasserie et une production plus industrielle, si tu veux, ont aussi fait des associations avec les grands brasseurs. Donc, il y a ça, là, ça s'en vient. C'est une question de temps avant que les gros disent « on va acheter des petits pour être capable de garder ce marché-là aussi ».
On s'attendait, Pierre-Yves, à l'annonce cet après-midi d'un important commanditaire sur le nouveau Festival du Rire de Montréal. Cette collection d'humoristes là qui veut pallier peut-être à une disparition, en tout cas effacer juste pour rire.
Et ça a été confirmé pendant le tour de table dont on se parlait tantôt. C'est Desjardins, Mouvement Desjardins, qui, de sa mission, a une mission collective, une mission coopérative. Donc, on se dit, si les humoristes forment un OBNL, un type d'association, il y a un fit naturel avec Desjardins. Donc, on va venir s'associer. On n'a pas encore les investissements. On n'a pas encore quelle sera la nature de la commandite. Mais avec un gros nom comme ça, ça démontre que le nouveau festival attire la sympathie, attire l'image positive, attire les commanditaires. Et le festival qui va gagner entre le Festival Juste pour rire et le Festival du rire de Montréal, c'est celui qui réussira à avoir l'argent. L'argent des parce qu'il va y avoir, s'il y a deux festivals, il va y avoir une cannibalisation, faut en éliminer un d'ici l'été prochain, ça sera lequel? Qui va avoir la place des festivals? Qui va avoir les food trucks? Qui va avoir les représentants, la SAQ, les subventions gouvernementales? Je peux pas croire qu'on va multiplier par deux, qu'on va faire deux festivals, il y en a déjà beaucoup, donc il y a une guerre qui va se jouer jusqu'à ce moment-là. Et ça va jouer sur le prix d'acquisition de Juste pour rire. Donc, c'est une guerre très intéressante qui joue en arrière, et voir quels humoristes vont franchir la ligne de la collectivité, c'est-à-dire la ligne de la solidarité, lesquels vont dire « je vais aller à Juste pour rire quand même parce que je dois payer mon loyer », c'est à suivre. Mais Paul, il y a une belle présentation politique de ce qu'on voit, il y a un événement perturbateur qui change complètement le marché de l'humour à Montréal, dans le festival, le fameux modèle OBNL plus producteur qui prend les profits, c'est un peu terminé. Et ça va peut-être remettre en question aussi, même chose au niveau du Spectra, tu sais, au niveau de Francofolie, au niveau du Festival de jazz, peut-être les politiciens vont être un petit peu plus critiques face à l'argent qu'on donne,
ben,
et s'assurer que...
Oui? Et je veux pas blesser ta modestie, mais qu'ils aillent lire ton texte sur les organismes à but non lucratif et celui que tu voulais lancer à la blague, celui des contribuables, parce que le mécanisme te permet de t'enrichir assez rapidement.
Mais évidemment, tout dépend de comment t'es gourmand comme producteur.
Est-ce qu'il est encore disponible, ton texte?
Oui, oui, c'est en 2015, c'est sur levoir.ca, le Festival du contribuable de Montréal. Évidemment, j'avais eu un peu de haine quand j'avais écrit ça des producteurs à Montréal en me disant,
oui,
je comprends rien, mais je pense que l'histoire me donne un peu raison.
Pas mal, pas mal. Je savais pas que ça datait déjà de 2 ans. Merci, Pierre-Yves, à demain.
Salut, Paul.